Actu SF, les podcasts.
Bonjour à tous, chaleureuse bienvenue dans ce Magic Mirror pour le lancement de notre 18e édition des Imaginales. Alors, un petit retour en arrière, l'an dernier, le pays invité était le Canada, la thématique était les créatures. Nous avons remporté l'an dernier, et ça progresse tous les ans, un franc succès, puisque nous avons eu près de 40 000 visiteurs, 8 000 visiteurs aux conférences, personnes qui ont participé aux différentes conférences, ce qui est quand même assez impressionnant. Et puis, bien sûr, un certain bonheur de nos libraires qui voient leur chiffre d'affaires augmenter régulièrement depuis le début du festival. C'est important de le dire. On est quand même là aussi, certes pour faire la promotion des auteurs, mais aussi de leurs livres. Et c'est donc important de le dire. Alors, un festival de plus en plus prisé, je disais, avec des conséquences, bien sûr, une saturation hôtelière sur le secteur. Et puis, un autre indice de... un autre indicateur en tous les cas qui témoigne bien de l'ampleur que prend le festival. Lorsqu'en 2014 nous avions 20 stands qui ont été loués ici dans le parc du cours, cette année nous en sommes à 92, donc on va bientôt passer la centaine. Alors donc quelques mots sur les nouveautés 2019, mais bien sûr je voudrais vous présenter quand même les deux personnes qui m'entourent. À ma gauche, tout le monde connaît, bien sûr, c'est la star de ces Imaginales. C'est la directrice artistique, après les auteurs.
Pour rassurer.
Donc Stéphanie, qui est à mes côtés, qui est la directrice artistique, que je veux remercier tout de suite pour le travail considérable qui est réalisé. Et puis bien sûr Guyot, à qui je donnerai la parole, qui nous parlera tout à l'heure du colloque, puisque nous en sommes à la deuxième édition du colloque. Mais concernant le colloque, je voudrais quand même dire que les actes du colloque de l'an dernier ont été publiés. Vous en direz un mot peut-être? Voilà, je voulais vous le présenter rapidement. Merci à ActuSF d'avoir été réactif et d'avoir pu publier ces actes du colloque. Alors, qu'est-ce qui différencie? Vous savez que tous les ans, on essaye d'innover, on apporte des choses nouvelles. Cette année, une nouveauté, notamment, entre autres, c'est le prix Imaginal de la BD. Effectivement, alors ce prix... Ce prix sera attribué, je crois même que les auteurs seront présents, c'est à peu près certain, c'est ça?
L'un des auteurs à coup sûr.
L'un des auteurs sera présent, et nous serons heureux de l'accueillir, bien sûr. Il s'agit de Joseph Homs, ils sont donc les deux lauréats sont Joseph Homs et Sidrou. Et puis, cette année, nous avons aussi le renforcement du pôle illustration BD, pas seulement un nouveau prix, mais aussi le renforcement du pôle avec près de 30 auteurs qui seront présents, et ça se passe tout près d'ici, à l'espace court. Concernant la BD, toujours, la BD qui sera pas mal mise en avant cette année, nous avons deux expos qui sont importantes. Rosinski, fantastique. Alors de Jules Verne à Torgal, c'est au musée départemental d'art ancien et d'art contemporain. Nous avons la présence parmi nous d'ailleurs aujourd'hui. Oui, il se cache, il est au deuxième rang, mais on vous le montrera tout à l'heure. Merci de votre présence. Alors, et puis une autre expo que je vous recommande également, c'est Très Très Noir. On vous les recommande toutes d'ailleurs, elles sont nombreuses. Mais concernant la BD, c'est Très Très Noir, c'est au musée de l'image à Épinal, Franquin, avec, c'est déjà jamais eu, je crois, dans une expo, autant de dessins de Franquin rassemblés notamment concernant ces fameux très très noirs. Et puis, autre nouveauté cette année, la fresque des Imaginales, elle permettra la confrontation de 4 étudiants de l'École nationale supérieure d'architecture de Nancy et de Les Halles, mais on y reviendra peut-être. Et puis, la deuxième édition du colloque universitaire consacré à la sociologie et l'anthropologie. Alors cette année, c'est Topologie de l'Imaginal. Et je vais laisser la parole à Laurie Guyot qui va vous en parler. Le colloque vient de débuter à 9h, à quelques pas d'ici.
Pardon. Oui. Merci, monsieur le maire. Juste quelques mots pour vous présenter, oui, en effet, ce recueil donc, qui est le. Oui, ce recueil des actes du colloque sur la fantaisie qui a eu lieu donc l'année dernière, dirigé par ma collègue Anne Besson. Je vous rappelle, pour ceux qui ne sont pas encore habitués au système des Imaginales, que dorénavant, tous les ans, il y aura soit juste avant, soit pendant le festival, un colloque universitaire. Ce colloque universitaire sera dédié à la première année à la fantaisie. La seconde année, ce qui est le cas ici, je prendrai la parole rapidement parce qu'on m'attend là-bas, un colloque plutôt anthropologique, plutôt sociologique, qui est donc dirigé par Georges Bertin et mes soins. Mes soins, c'est moi. Et donc, la topologie de l'imaginal, alors il faut que j'explicite un petit peu un mot, j'espère en tout cas que ce terme un petit peu amphigourique vous donnera envie peut-être d'aller faire un tour chez nous, on est juste à côté. Image, imaginaire, imaginal, on croit tout connaître. Ce qu'on appelle ici imaginal, qui est un terme remarquable et tout à fait fédérateur, si j'en crois les chiffres chaque année qui ne cesse de croître, curieusement, en fin de compte, c'est plutôt les imaginaires dont on parle ici. Et je pense qu'il était temps, et c'est une très bonne idée de Georges Bertin, de parler d'un concept qu'on connaît beaucoup moins, qui est celui de l'imaginal, et qui a évidemment des passerelles avec les imaginaires, mais qui est tout de même un sujet un petit peu différent dans la mesure où un chercheur qui s'appelle Henri Corbin a dédié pratiquement toute son œuvre, disons, à la recherche d'une sagesse qu'on appellerait soufie pour aller vite et, disons, une recherche circonscrite aux orients mythiques. Donc c'est plutôt oriental, orientaliste. Et cet imaginal imaginaire est plutôt teinté de mythes, plutôt teinté de croyances. Je ne suis pas de ceux qui font un distinguo définitif entre les imaginaires et l'imaginal. Je réserve ça à quelques initiés. Moi, je pense que nous avons toutes les possibilités de nous entendre. L'imaginal, c'est avant tout un lieu médian, un lieu intermédiaire qui est à la fois réel et irréel. Il est évident que cette même définition peut marcher aussi bien que pour beaucoup de lieux archétypaux de l'imaginaire, que ce soit l'île, la montagne, le lac. Enfin, bon, on connaît tous ces archétypes par cœur. Alors, ces archétypes dans l'imaginal sont un petit peu plus nimbés d'ésotérisme, de croyances, de spiritualité, mais en fin de compte, une fois encore, je ne pense pas que les différences soient énormes entre les deux. Vous avez si on parle de la quête du Graal, par exemple, eh bien, je pense qu'on peut très bien jouer de l'imaginaire et de l'imaginal. Même un Lovecraft, par exemple, je pense à la quête de Randolph Carter, peut très bien fonctionner des deux côtés aussi. On pourrait trouver dans le cinéma, évidemment, d'autres exemples, que ce soit bien sûr 2001, Odyssée de l'espace, ou Interstellar, par exemple. Ce sont des films qui engagent une réflexion, quelquefois même une méditation. Et je pense là que ces films, on pourrait en trouver d'autres, sont justement à la frontière de l'imaginaire et de l'imaginal. Donc on va consacrer 2 jours à cette réflexion et j'espère que vous viendrez nombreux, ne serait-ce que pour en société briller, pour dire que vous ne connaissez pas l'imaginal. Je suis très surpris. En tout cas, je vous remercie et je m'excuse, je vais filer immédiatement.
Merci, merci beaucoup Laurie Guyot. J'en profite d'ailleurs pour rappeler que les imaginales maçonniques et ésotériques débutent ce soir à 18h au Temple. Je crois que c'est une intervention de Claude Vautrin, si je me souviens bien, pour la première intervention qui aura lieu donc au Temple, juste de l'autre côté de la rue. Et puis revenons à notre édition, 18e édition des Imaginales, avec la thématique, vous le savez, elle porte sur la nature, les pays invités, les pays nordiques, ou les pays du Nord, on va dire. Et je vais tout de suite passer la parole à Stéphanie Nico pour qu'elle vous présente les auteurs, mais je voudrais quand même saluer en tout premier notre coup de cœur, David Brie, ici, qui est devant nous pour les autres auteurs présents. Mais encore une fois, bienvenue à vous tous. Ils sont 180 à avoir été invités et ils seront plus de 300 présents aujourd'hui. Stéphanie, je vous passe la parole.
Merci, monsieur le maire. Vous avez vu, on a donné la parole à un distingué universitaire et ami des Imaginales que je connais de longue date, évidemment, Laurie Guyot. Vous avez vu, on avait commencé l'année dernière, c'est-à-dire qu'on a des... Vous savez, des prix littéraires qui sont consacrés aux collégiens, aux lycéens, aux écoliers. Ça sera remis les collégiens et les lycéens aujourd'hui, aux écoliers demain. On a des universitaires avec des colloques qui se mettent en place, des actes de colloques, c'est-à-dire une réflexion. On part de l'école primaire jusqu'à l'université et évidemment, on draine les familles. En fait, c'est ça le projet qu'on avait lorsque on en évoquait les prémices, monsieur le maire. Nous avions décidé de lancer, vous m'aviez fait l'honneur de me confier la direction artistique d'un festival avant même d'avoir vraiment, sinon dans la littérature, fait mes preuves. Donc je vous en remercie, c'est l'occasion de le dire. Et je crois qu'en tirant le bilan 18 ans après, avec plus de 40 000 visiteurs, on a fait le bon choix. Une ville a osé ce que d'autres villes n'avaient pas osé, puisque ce projet était dans les limbes, mais il était déjà en route et proposé. Une ville a osé dire oui, c'est littérature, la fantastique, la science-fiction et la fantaisie qui est notre dominante. C'est une littérature d'aujourd'hui et de demain. C'est une littérature de grande qualité. C'est aussi une littérature populaire. Et c'est pour ça que la ville d'Épinal va faire le pari de créer un grand festival. Ça pouvait paraître à l'époque très prétentieux. Aujourd'hui, on peut dire sans fausse modestie qu'à Épinal, on a un des grands festivals littéraires français. Et c'est aussi des structures comme le Centre National du Livre, le CNL, qui en augmentant encore un peu cette année sa subvention, comme elle l'avait fait l'année dernière et comme nous espérons qu'elle va continuer à nous accompagner l'année prochaine. Eh bien, donc, voilà, les promesses engagent, j'espère, aussi ceux qui les croient et ceux qui les disent. En tout cas, je pense que jusque-là, cet accompagnement a eu lieu, il n'y a pas de raison qu'il s'arrête. Tout ça nous dit que l'imaginaire aujourd'hui, c'était le bon choix, la littérature qui apporte. Et vous en êtes, les auteurs ici présents, les représentants. Le maire a salué David Brie, le coup de cœur du festival. C'est ça qu'on fait aussi chaque année. On choisit un auteur de langue française, français ou des pays francophones, Belgique, Suisse, etc., pour mettre en avant un écrivain dont on a déjà repéré le talent, mais que le très grand public ne connaît pas encore, ou du moins suffisamment. Et donc, on essaie de lui donner une sorte de tremplin, d'appui. C'est tout le mal qu'on souhaite à David Brie, qui est une des très belles écritures et des très belles signatures d'imaginaire aujourd'hui en France. Mais on aura l'occasion de le découvrir dans beaucoup de débats, puisqu'il est le coup de cœur du festival. Mais le thème nature nous a amené assez facilement à dire, tiens, si on invitait un pays nordique. Et puis en regardant, on s'est rendu compte que peut-être pour la première fois, ce qui était intéressant, rien n'empêchera d'inviter un de ces pays à tour de rôle dans les années à venir. Rien ne nous empêchait d'inviter cette fois-ci plusieurs pays, ces pays du Nord, ces pays du froid, ces pays d'un imaginaire différent mais néanmoins universel, que sont la Finlande, représentée ici par Johanna Sinisalo, qui est une des très grandes signatures de la littérature européenne, bien au-delà même des étiquettes. C'est aussi le cas de deux plus jeunes autrices de grands talents qui nous viennent d'Islande. D'abord Hildur Knutsdottir, que je salue ici. J'ai découvert tout simplement l'autrice un peu par hasard en cherchant qui je pourrais inviter. Je suis tombé sur ses romans, plutôt destinés à la jeunesse. C'est donc Dernier hiver et Sanglant hiver, c'est un diptyque. On racontera évidemment dans les cafés littéraires un petit peu, on vous donnera une idée de ce que c'est. Mais c'est aussi une Islande isolée, une Islande envahie, une Islande menacée et un groupe de personnages qui essaient de s'en sortir. Évidemment, il y a à la fois tous l'Islande et il y a à la fois tout l'universalisme de la peur face à une menace qui nous dépasse, en tout cas au début du roman. Et ce sont des livres parus il y a quelques années, c'est-à-dire qu'ici, on ne se refuse rien. On a évidemment un festival qui suit l'actualité, on a les livres qui viennent de sortir, mais on a aussi des livres qui sont sortis il y a 1, 2, 3 ans parce qu'on a un coup de cœur pour des livres, on a un coup de cœur pour des écrivains, et c'était le cas pour Hildur Knudsdottir. Sigríður Hagalín Björnsdóttir, deuxième invitée islandaise avec Lille, un roman là aussi de l'enfermement et de l'isolement. On posera la question dans le café des littératures nordiques qui aura lieu dans les jours qui viennent. On se posera la question de savoir si c'est un hasard de deux livres qui traitent un peu de sujets, même s'ils sont traités très différemment de sujets proches, ou si ce sont les inquiétudes des Iliens et des Iliennes. Quand on est dans une île, est-ce qu'on voit le monde différemment que quand on est sur un continent? Est-ce que c'est une inquiétude spécifique liée à l'histoire de l'Islande que vous nous proposez aujourd'hui, ou est-ce que c'est de façon plus universelle, peut-être les deux, et vous nous le direz? Est-ce qu'il s'agit donc d'une inquiétude un petit peu générale sur la planète? Où allons-nous, à défaut de se poser la question d'où venons-nous? Ça, nous le savons relativement. Voilà, deuxième autrice islandaise après l'autrice finlandaise, et évidemment, à tout seigneur, tout honneur, Anders Fager, qui est une aussi très belle signature de la littérature européenne et de la littérature suédoise, troisième pays. Là aussi, deux romans qui sont parus chez un éditeur qui n'est pas un éditeur spécialisé dans les domaines de l'imaginaire, mais qui en publie beaucoup, simplement parce qu'ils aiment les bons livres et qu'ils ne se posent pas la question des étiquettes. Ça aussi, c'est en train de changer en France. Donc, Les Furies de Boras et La Reine en jaune, dont je rappelle qu'il faisait partie des 5 livres nominés aux précédentes Imaginales, ce qui est dire à quel point le talent d'Anders Fager nous a frappés. Ces deux livres ont été réédités chez Pocket, en poche, donc encore économiquement plus accessible. Et le dernier, tout frais, que j'ai reçu il y a 48 heures avant le festival, La Reine en jaune, qui avait donc eu un recueil de nouvelles, qui avait donc eu une nomination prix Imaginal, et le sous-titre choc, le Lovecraft suédois sous acide. On lui posera la question, est-ce que réellement il est sous acide? En tout cas, le slogan choc, je ne sais pas s'il le découvre et s'il le connaissait, c'est le slogan choc de son éditeur. En tout cas, on dirait, mais je ne voudrais pas que ça soit perçu comme épigone ou comme restrictif. En tout cas, c'est certainement, on pourrait dire, le Lovecraft du 21e siècle, qui est à la fois de dire qu'il en a tout le talent, et ça n'est pas rien, et à la fois qu'il en est évidemment différent, puisque c'est à partir des problématiques et des traitements du 21e siècle qu'Anders Fager écrit, y compris sur Dans un pays, les gens qui viennent d'ailleurs, comment ils retournent vers leurs racines, surtout quand c'est une famille de vampires. Vous découvrirez l'histoire absolument abominable et drôle à la fois dans la Reine en jaune. Voilà l'ensemble de ces auteurs et de ce roman. On va leur donner brièvement la parole pour nous dire un mot. 4 auteurs des pays nordiques, donc l'Islande, la Finlande et la Suède. Je le dis déjà ici, nous continuerons à nous intéresser à ces pays. Vous verrez, c'est comme pour le polar et le thriller nordique. Ce sont des grands pays de littérature. Ce sont des grands auteurs et des grandes autrices. Ce sont de beaux romans, de belles nouvelles, des histoires originales qui portent la marque de leur pays, mais qui aussi parlent à tout le monde. Et c'est ça aussi l'universalisme. Et c'est pour ça que la France, il faut le redire, est un pays ouvert sur le monde, contrairement à certaines idées reçues. Et c'est un pays qui traduit énormément d'auteurs venus de pays étrangers. Et on est à la fois, aux Imaginales et Épinal, enracinés dans notre pays, enracinés dans notre histoire. Et on en est fiers. Il y a des mauvais côtés, comme dans tout pays, mais on est fiers des bons côtés de ce pays, de ce qu'il a pu apporter. Et on est aussi ouvert sur les pays du monde et sur les littératures du monde. Parfois, on débat sur la mondialisation. On s'en inquiète, on en a peur. Mais ici, c'est la mondialisation heureuse, celle des belles rencontres, celle des écrivains, celle qui ne fait pas débat, celle qui ne fait pas polémique, celle qui rassemble, celle qui unit. C'est pour ça que je salue aussi brièvement les autres auteurs étrangers qu'évidemment, on verra dans les jours qui viennent. Je pense à Peter Webrecht, qui est parmi nous, qui était déjà venu en 2011, qui était un un écrivain extrêmement prometteur et vouait un bel avenir littéraire. Ça s'est confirmé, on n'avait pas tort de miser sur lui en l'invitant. C'est aujourd'hui une des grandes stars de la fantaisie américaine. Il nous revient 8 ans plus tard avec une autorité encore littéraire supplémentaire. Je suis extrêmement heureuse qu'il ait accepté aujourd'hui à nouveau notre invitation. Et puis Sam G. Miller, aussi auteur américain, vous le découvrirez, c'est la nouvelle coqueluche de la littérature de science-fiction américaine. Il parle de l'île, de l'isolement. Tiens, à nouveau, un thème, on mixera avec parfois les thèmes des pays du Nord. C'est d'après la catastrophe climatique. Vous n'avez pas réussi, monsieur le maire, à l'éviter. Donc dans 2 siècles, c'est fait évidemment pour vous alerter encore plus, vous l'avez bien compris. Je sens votre pessimisme, mais bon, ça veut dire qu'on a beaucoup à se mobiliser. C'est aussi des thèmes... Et on en parlait là aussi il y a pas mal d'années, des thèmes qu'on a dans un festival comme le nôtre. On est là pour partager le bonheur de la lecture, de l'imaginaire, de partir ailleurs, sur des terres du futur, sur des terres autres, sur des terres de fantaisie, sur un fantastique, mais par des biais souvent particuliers. On revient aussi aux interrogations, aux questions, aux inquiétudes et aux espoirs qui font ce qu'est notre espèce commune, c'est-à-dire l'espèce humaine, dont on sait aussi que parfois... elle doit se poser la question de ses rapports à la biosphère, à la planète et aux animaux. Question relativement nouvelle dans nos mondes. Je vais donc donner la parole à nos 4 invités nordiques, mais juste avant, je vais quand même, coup de cœur du festival, donner la parole, quelques mots, à David Brie. David Brie, dont évidemment je vous recommande l'ensemble des livres, mais en particulier les 2 derniers. Celui qui m'a décidé non seulement à l'inviter, il était déjà venu, mais à en faire le coup de cœur, c'est Que passe l'hiver. Lui aussi a un livre nominé aux Imaginales l'année précédente. C'est un magnifique livre dans un monde de neige et de froid. Vous voyez aussi le rapport, ça tombait très bien, c'est vraiment un hasard, mais ça tombait très bien, au rapport avec le froid les paysages du Nord. C'est un beau roman de fantaisie, un roman, on va dire, avec une trame policière, un roman avec une société qui meurt. Une société dont l'équilibre est rompu, tiens, on pense à Game of Thrones, c'est très différent. Hein. Mais vous verrez, extrêmement bien écrit, extrêmement poétique. Et il est donc paru à L'Homme sans nom, un des jeunes éditeurs qui montent, partenaire des Imaginales. Et ce livre vient aussi, décidément, d'être réédité chez Pocket avec une magnifique bande dans toute la France. Coup de cœur des Imaginales, c'est bien pour lui, c'est bien pour l'éditeur, c'est bien pour nous. C'est aussi ces partenariats dans la chaîne du livre qu'on essaie à Épinal de développer entre les lecteurs, les professionnels et tous ceux qui font vivre le livre. David Brie, vous êtes le coup de cœur du festival. Vous présenterez vos autres livres, votre livre jeunesse aussi, dont on parle beaucoup en ce moment, qui nous parle de différences et de menaces là aussi, mais là humaines et non plus climatiques parfois. David Brie, qu'est-ce que ça vous fait d'être le coup de cœur des Imaginales 2019?
Alors, bonjour à tous déjà, merci d'être nombreux. Ça fait très peur. Les Imaginales, on en parle souvent, nous les auteurs, c'est un très grand festival, ça on l'a dit. C'est un festival qui est très chaleureux, et c'est un festival où il y a beaucoup d'échanges. Et c'est un festival où on aime venir. Et du coup, comme tous les endroits où on aime venir, on aime y être accueilli et on ne veut surtout pas décevoir. Et du coup, être coup de cœur des Imaginales, c'est quoi? C'est une très très belle reconnaissance du travail que l'on peut faire en tant qu'auteur. Donc c'est quelque chose qui est très rassurant et c'est quelque chose qui nous encourage à continuer à travailler, à continuer à mieux travailler, plus travailler, à faire toujours mieux. L'imaginaire, c'est une littérature que je trouve fascinante parce qu'elle permet à la fois de parler de problématiques au niveau des sociétés, des problématiques d'organisation, de structure, des choses très très vastes. Et c'est une littérature qui permet aussi de parler de choses très intimes, à travers les symboles, à travers les métaphores, à travers tout ce que ça peut toucher de l'inconscient de chacun. Et vraiment, je crois que c'est cette utilisation de la métaphore et du symbole quelque chose qui peut toucher profondément le lecteur. En tout cas, c'est ce que, entre autres, moi je cherche, mais je ne suis pas le seul, loin de là. Et du coup, être coup de cœur des Imaginales, c'est une grande fierté, un grand honneur, et c'est une invitation à continuer, j'espère, à vous emmener, moi, mais comme aussi, et surtout, tous les autres auteurs, toujours plus loin dans ces réflexions sociétales, dans ces réflexions humaines, pour qu'on continue à avancer ensemble, et surtout à faire des beaux voyages littéraires ensemble.
Merci, David. Johanna Sinisalo, si vous pouvez venir vous aussi nous dire un petit mot accompagné de votre interprète que je remercie particulièrement de s'être libérée pour nous faire l'interprétariat et je vous remercie tout particulièrement parce que vous êtes aussi la traductrice des romans en France de Johanna Sinisalo, donc doublement compétente pour l'accueillir. Si quelqu'un peut amener une chaise, ce serait sympathique à notre interprète. Eh bien, on y va. Donc, Johanna Sinisalo, je vous ai découverte au hasard de mes lectures, de conseils d'amis, mais en croyant lire de la littérature générale, du mainstream, comme on dit parfois en France. C'est-à-dire qu'en France, vous êtes présentée par vos éditeurs, ce qui est pour des choix, je pense, extra-littéraires, plutôt de public. Vous avez été présentée comme une autrice de littérature générale, de mainstream. Or, quand j'ai commencé à lire vos livres, en croyant lire de temps en temps, j'en lis aussi, de la littérature générale, j'ai découvert que on était plutôt dans les domaines du fantastique, de la fantasy, et même de la science-fiction pour certains. Certes, une science-fiction qui n'est pas dans les étoiles, vous ne faites pas du space opéra, enfin, on va y revenir, pas d'habitude, mais vous nous racontez aussi parfois des histoires qui se déroulent dans un futur proche. En fin de compte, vous aviez évidemment toute votre place dans un festival des mondes imaginaires comme les Imaginales, et plus récemment, et là ça vous a touché un autre public, vous avez sorti le Reich de la Lune, là, dans une collection ouvertement de science-fiction. Maintenant, ça y est, en France, on assume aussi que vous écrivez de la science-fiction. Vous avez eu beaucoup de prix de science-fiction dans votre pays et vous êtes connu comme pour ça. Vous êtes connu aussi pour ça dans le monde anglo-saxon. Vous avez eu aussi un prix anglo-saxon, signe que vous n'êtes pas traduite qu'en France. Et le Reich de la Lune, ça vous dit évidemment quelque chose, puisque c'est un roman qui est tiré du scénario que Johanna Sinisalo avait écrit pour le film, vous savez, c'est Nazi sur la face cachée de la Lune. Le pire, c'est qu'il y en a qui y croient vraiment, qui confondent la littérature et le réel. Mais ça, bon, c'est un autre débat. Sur le complotisme, il y a un café littéraire qui en parlera avec Christopher Priest, entre autres. Bref, Johanna Sinisalo, vous êtes une autrice dont j'aime énormément l'écriture, l'humour, le féminisme caustique et grinçant. En particulier, moi, un roman que j'aime tout ce que vous écrivez, mais avec joie et docilité. C'est un livre délicieusement caustique et inquiétant, une sorte de dystopie finlandaise à court terme qui pourrait aussi nous interroger, nous les Français. Un très beau livre. Johanna Sinisalo, en quoi vous êtes, vous qui êtes une autrice vraiment racinée dans l'histoire de la Finlande et dans votre pays, ça se voit en lisant les textes, quel est le rapport entre le particularisme, l'enracinement dans votre pays et l'universalisme dans votre littérature ?
Mun mielestäni on hyvin tärkeää kyetä erottumaan maailmanmarkkinoilla esimerkiksi anglosaksisesta kirjallisuudesta. Ja mun suomalaisuuteni on siinä ehdottomasti etu. Mä voin kirjoittaa universaaleista asioista, jotka koskettaa kaikkia, mutta samaan aikaan olla ikään kuin hiukan eksoottinen, koska tarinani ovat hyvin pohjoisia ja käyttävät hyväkseen pohjoisen erikoislaatuisuutta.
Oui, je pense qu'il est très important de pouvoir se démarquer par rapport à la littérature anglo-saxonne, par exemple, dans le monde. Et c'est pour ça que je tiens beaucoup à cet enracinement dans la Finlande et dans mon pays natal, donc, qui me permet à la fois donc, de parler de choses très locales et donc de me distinguer de cette façon, tout en m'inscrivant effectivement dans une littérature mondiale.
Je citais, alors bon, j'ai cité rapidement cette adaptation donc, de ce film qui vous donne aussi, pour ceux qui ne vous connaissaient pas encore, parce que vous êtes paru dans des collections de littérature générale, une notoriété nouvelle qui, j'espère, va les amener à découvrir vos autres romans. Je parlais d'un livre un peu ancien, mais que vraiment j'ai lu il y a seulement un an, que j'ai énormément aimé, avec joie et docilité. C'est l'histoire d'un couple, c'est l'histoire d'une Finlande dystopique d'un futur proche, et on y trouve un statut où il y a deux types de femmes, il n'y a qu'un type d'homme, rassurez-vous, c'est simple, mais il n'y a qu'un seul type de femme. Il y a les Morlocks, si je me rappelle bien, qui sont ces femmes un peu rebelles, un peu indépendantes, enfin bref, qui voudraient exister, égalité avec les hommes, il y a parfois de ces prétentions. Et ces femmes, évidemment, sont stérilisées, c'est une dystopie, je vous l'avais dit, et on les a à l'œil parce qu'elles représentent un danger. Et puis il y a les gentilles femmes, telles qu'on les souhaite. Je rappelle que parfois, dans d'autres pays comme les États-Unis, il y a quelques dizaines d'années, les épouses récalcitrantes étaient lobotomisées pour être beaucoup plus soumises après. Hein. C'est des horreurs qu'on découvre seulement maintenant et depuis quelques années. Donc là aussi, hein, universalisme et particularisme. Et vous imaginez que donc, ces femmes dociles, elles, sont les épouses rêvées. Et là, vous nous décrivez justement une de ces personnes qui est une femme qui a à la fois ce charme qu'on imagine, etc., qu'on attend, en tout cas certains hommes attendent, ce qu'on peut comprendre parfois, et une femme indépendante. C'est très ennuyeux. Et donc, elle est dangereuse. Voilà votre univers. Pourquoi, dans vos romans de science-fiction à court terme, de dystopie, insistez-vous avec cet humour caustique et grinçant sur les inégalités des sexes et sur le fait que pour un certain nombre d'hommes, pas tous heureusement, un certain nombre d'hommes, une femme qui a à la fois du charme et de l'indépendance est un problème?
Joo, eli tuosta aurinkoytimestä enimmäkseen, niin miksi sinä käytät?
Mä haluaisin kirjoissani korostaa sitä, että vahvat naiset eivät ole poikkeusyksilöitä, vaan heitä on olemassa, heitä on paljon ja heitä pitäisi olla yhä enemmän. Eli meidän pitäisi ikään kuin tavanomaistaa tällaisen vahvan ja itsenäisen naisen kuva. Ja varmaankin ehkä kirjoissani miehet suhtautuvat näihin negatiivisesti, koska meillä on vielä paljon parannettavaa tässä arvoalueella. Ja erityisesti sen takia, että ihan aivan voisi sanoa globaalisti, niin naisen asema eri maissa on alkanut ottaa huolestuttavasti takapakkia.
Oui, je pense, si je parle autant de femmes fortes dans mes livres, c'est que pour moi, ce n'est pas vraiment une exception. En fait, j'ai besoin de montrer qu'il existe partout dans le monde beaucoup de femmes fortes. Mais en même temps, si beaucoup d'hommes ont cette image négative de ces femmes indépendantes, c'est que malheureusement, il reste encore énormément à faire dans le monde sur ce sujet-là, c'est-à-dire sur l'égalité entre les sexes. Et je constate aussi, à mon grand regret, qu'en ce moment, partout dans le monde, il y a un grand retour en arrière sur cette question.
Merci, Johanna Sinzello. On va évidemment avoir tout le temps dans ces jours de vous écouter, de vous poser des questions. Nos modérateurs seront ravis de permettre au public de vous découvrir. Anders Fager, si vous voulez bien prendre un petit moment.
Merci.
Merci à vous. Je remercie beaucoup notre interprète. Ça sera de l'anglais, non pas du suédois. On a eu un petit souci avec la traductrice qu'on avait envisagée, qui a eu un petit souci de santé, qui n'a pas pu se libérer. J'espère que la prochaine fois, parce que vous reviendrez, Anders Fager, nous aurons, malgré tout le talent de Claudine, nous aurons une interprète de votre langue natale. Mais vous parlez un anglais courant, donc ça va fonctionner très bien. Anders Fager, je l'ai bien sûr dit tout à l'heure, alors le Lovecraft suédois sous acide, c'est assez drôle, il faut le reconnaître, c'est l'humour. Est-ce que ça correspond bien à votre forme d'humour, le slogan un peu provocateur de votre éditeur de poche?
I really loved that little line, to being Lovecraft on acid is truly an honor.
Yes. J'ai adoré, hein, j'ai adoré ce slogan, Lovecraft sous acide. C'est un vrai honneur d'être comparé comme ça.
I think when you write, if you work with someone else's old, very sort of established ideas, you have to be terribly disrespectful and really break them. Otherwise, you're just imitating. If you think about how no one. Everybody in the 50s listened to Elvis. What we do remember today is Led Zeppelin that totally smashed Elvis, for instance. You have to approach the old things with new ideas.
Alors, en fait, quand on travaille avec des idées qui existent déjà, des idées déjà établies, il faut manquer de respect. Il faut briser tout ça. Parce que sinon, c'est juste de l'imitation. Prenez les années 50. Tout le monde adorait Elvis, tout le monde écoutait Elvis. Mais après, Led Zeppelin est arrivé et il a tout cassé. C'est ça l'idée.
Ben voilà, vous allez voir les textes d'Anders Fager, ça va vous bousculer. Vous allez voir, c'est vraiment une littérature tout à fait géniale. Je sais que certains préfèrent les romans aux nouvelles, mais vous allez voir des nouvelles comme ça. Vous allez en demander, vous allez vraiment, vraiment plonger. J'insiste, si le livre a été immédiatement nominé aux Imaginales, c'est que notre jury qui découvrait Anders Fager a tout de suite été intéressé par la qualité de son travail. Deuxième question, justement, qui recoupe celle que j'ai commencé à poser à nos auteurs nordiques. Qu'est-ce qui fait l'universalisme? C'est-à-dire que, moi j'ai employé un terme moins chic-choc, mais Lovecraft du 21e siècle, c'est-à-dire vous n'êtes pas Lovecraft, vous apportez bien sûr autre chose, même si vous inscrivez dans une lignée comme le font aujourd'hui tous les écrivains. quelle est la place de l'inscription dans cette tradition d'une fantaisie horrifique et l'implantation, l'enracinement dans la Suède, parce qu'évidemment, j'ai bien vu que vos personnages, même quand ils sont d'origine étrangère, ils sont profondément suédois. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti.
Are you with me?
Yeah, I am with you.
I think my drive here is the very childish notion of what if? What if there are goblins living in the park or on Okle in the river or something? And it has been like that since I was 5 or 10. I grew up in very bleak Sweden in the 70s. We were sort of a bit isolated from the rest of the world. And I think I've never got much older in a way. I'm still so fascinated about that notion that what if? So it's a very childish drive. I'm still so amused by this. Oh, let's see what happens if.
Alors, voilà, je pense qu'en réalité, c'est cette idée du quoi si. En fait, quoi s'il y a un monstre dans le parc, dans la rivière. C'est cette idée qui passionne les enfants de 5 à 10 ans, c'est enfantin en quelque sorte. J'ai grandi dans la Suède des années 70, c'était pas folichon. On était un pays assez isolé et j'ai grandi dans cet environnement assez tristoun. Voilà. J'ai jamais vraiment grandi et je suis passionnée, comme je l'étais à l'époque, par cette idée du quoi si. Alors en réalité, j'ai quelque chose qui me pousse de très enfantin. Et quoi si?
Eh bien, merci Anders Fager. On va là aussi se retrouver dans plein de débats et on va maintenant donner la parole à notre première autrice islandaise, Hildur Knutsdottir. Eric Bourri, qui nous fait l'amitié d'interpréter nos deux autrices islandaises, dont Hildur Knutsdottir. Alors, d'abord...
Je tiens juste à préciser que moi, j'ai traduit le livre de la seconde auteure islandaise, mais pas le premier.
Absolument.
Enfin, pas la première auteure islandaise, puisque c'est mon collègue et ami Jean-Christophe Salin qui a traduit ses livres.
Tout à fait.
Et comme il n'est pas là, je traduis ses propos.
Absolument. Un grand merci donc, parce que voilà, on n'a pas pu le faire pour les trois langues, mais pour deux d'entre elles déjà cette année, on va continuer à le faire. Pour nous, c'est important le plus possible, même si on voit qu'avec Anders Fager, il y a un anglais tellement limpide que bon, j'en comprends tout, ce qui n'est pas le cas de tous nos invités américains, selon les accents. Je ne suis pas très bon en anglais, et là, c'est une facilité et un bonheur, donc il n'y a aucun problème. Je pense que mes gens qui ne connaissent pas bien l'anglais comprennent l'essentiel de ce qu'il dit, même si la traduction précise. Mais le fait d'entendre la voix, d'entendre la langue, on sait bien que dans des pays relativement petits, mais même la France à l'échelle du monde, même si c'est un grand pays quelque part, on le croit, mais est un pays quand même relativement limité, 70 millions d'habitants, défendre notre langue, faire prospérer les langues, maintenir l'existence des langues, faire entendre la voix particulière et permettre aux auteurs et aux autrices de s'exprimer dans leur langue natale le plus possible. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire et qu'on va développer aux Imaginales, même si ce n'est pas toujours facile, parce qu'il n'y a pas tant d'interprètes et de traducteurs qui à la fois interprètent et à la fois connaissent un minimum l'imaginaire de ces auteurs. Donc, encore une fois, merci à vous tous, ces interprètes qui enrichissaient les Imaginales. Donc, Hildur Knutsdottir, je le disais tout à l'heure en présentant vos livres, je les ai lus parce qu'on m'a cité votre nom, des spécialistes des littératures nordiques, et... J'ai reçu les livres, je suis rentré dedans. C'était des livres qui étaient sortis il y a déjà quelques années, donc ce n'était pas lié à l'actualité. Les Imaginales ne sont pas, je le dis, qu'un festival des livres récents. Il y a bien sûr beaucoup d'auteurs qui viennent sortir. Il y a des sorties, vous le verrez, de livres qui sont en avant-première, qui vont sortir en juin et qui sont là ou qui viennent de sortir pour les Imaginales, ne serait-ce que l'anthologie nature du festival. Mais, Hildur Knutsdottir, j'ai aimé votre diptyque. J'ai aimé votre thématique, j'ai aimé votre écriture, votre sujet. C'est de la littérature jeunesse, donc les jeunes lycéens peuvent plonger là-dedans et même des grands collégiens, mais c'est aussi des livres qui se livrent très bien par les adultes et qui sont un vrai bonheur. Et donc, vos livres, ils m'ont plu, j'ai pensé que c'était intéressant de les faire découvrir, et que comme ici on est totalement libre de notre programmation, eh bien on peut faire le plaisir de redécouvrir des livres sortis il y a quelques années, en attendant, j'espère, vos nouveautés traduites en français. Je disais tout à l'heure que, on le verra avec votre collègue, vos livres parlent d'une île, parlent d'une île qui se sent parfois isolée, qui parfois craint l'isolement, craint la menace extérieure, mais aussi le fait d'être enfermé dans son monde. Est-ce que c'est un thème fréquent dans la littérature islandaise? Et en tout cas, pourquoi vous l'avez-vous traité, Hildur Knudsdottir?
Ég held að þetta sé hérna, orðið svolítið algengara núna eftir fjármálahrunið 2008. Þá þekktum við á Íslandi hvað við erum í rauninni hérna, einangruð af því að
Je crois que c'est un thème qui est devenu beaucoup plus fréquent dans la littérature islandaise aujourd'hui, disons après la crise de 2008, au moment où la crise, on a eu l'effondrement de l'économie islandaise, l'île s'est sentie, nous nous sommes sentis isolés, vraiment isolés du monde, et donc plusieurs livres, plusieurs auteurs se sont emparés de ce sujet, de l'isolement.
Og ég held sko, í einhvern veginn alþjóðavæðingunni, við kaupum avokadó frá hérna Suður-Ameríku og við getum fengið allt á Íslandi, en það þarf ekkert mikið að raskast til þess að við verðum bara ein.
Et évidemment, on vit dans une dans un monde totalement mondialisé, et en Islande, on le voit aussi, par exemple, on achète des avocats venus d'Amérique du Sud, et ça, c'est tout à fait quotidien, c'est tout à fait normal pour nous d'acheter des avocats venus d'Amérique du Sud, ou ça, c'est juste un exemple. Maintenant, il faut très peu de choses pour que tout déraille. Il faudrait très peu de choses pour que tout déraille et que l'île se retrouve totalement isolée.
Og náttúrulega ef við verðum alveg ein og ef rafmagnið fer og hitinn fer þá hérna, verður mjög dimmt og mjög kalt á Íslandi mjög fljótlega af því að við erum náttúrulega bara ykkur eiga úti raskandi.
Il suffit d'imaginer par exemple que simplement l'électricité soit coupée ou que le chauffage soit coupé, le chauffage par la géothermie soit coupé, très rapidement il ferait très sombre en Islande, surtout l'hiver où il fait presque pas, il n'y a presque pas de jour, hein, et il ferait aussi très très froid parce qu'on est quand même une île complètement isolée un peu au bout du monde, au milieu de nulle part.
Og hérna, en svo langaði mig líka bara að prófa að því að ég elska allt sem með zombjum og gemurum og mig langaði til að prófa að taka þær og setja þær á Íslandi og sjá hvað gerist.
Mais par goût personnel aussi, moi, j'ai toujours beaucoup aimé tout ce qui est zombie, extraterrestre et tout ça. Et en fait, j'avais envie de faire une tentative, simplement, c'était de prendre ces zombies et ces extraterrestres et de les introduire en Islande, de les mettre en Islande pour voir ce que ça allait faire.
Oui, parce que, sans révéler, bien sûr, mais ça, on peut le dire parce que c'est dans la carte de couve dès le début, c'est une invasion d'aliens, d'extraterrestres, mais des aliens un peu particuliers puisqu'ils bouffent les Islandais. Mais au sens littéral du terme, zombie cannibale. Donc zombie cannibale extraterrestre. Et qui d'où viennent-ils? Pourquoi? Comment? Qui étaient les guides peut-être? Ça, on verra plus tard. Et comment survivre? Voilà, c'est tous ces thèmes. Donc vous mélangez en quelque sorte la science-fiction avec les extraterrestres, vous mélangez l'horreur avec le cannibalisme et vous mélangez le thème du zombie qui traverse un peu l'ensemble de nos littératures. Vous aimez mélanger les genres dans vos romans, Hildur Knudsdottir?
Já, Mr. Rosa gaman og hérna og við svona eiginlega búum svolítið að því við íslenskir höfundar sem erum að skrifa svona fantasy og vísindaskáldskap að það hefur svo lítið þannig verið skrifað í rauninni á íslensku.
Oui, j'aime beaucoup ce mélange de genre. Il y a aussi quelque chose, c'est qu'en Islande, le genre de la science-fiction et de la fantasy, c'est quelque chose qui n'existait pratiquement pas jusqu'à il y a peu. Il y a très peu de romans ou de textes qui sont écrits dans cet esprit-là.
Og við erum kannski svona kynslóð sem að koma fram núna, þetta kannski svona Harry Potter kynslóðin sem farin að skrifa. Og hérna, og þannig að það rosa gaman finnst mér að taka ykkur svona þemu eða kannski, já, ykkur svona tegundabókmyndir og máta þær við Ísland.
Et peut-être que maintenant, alors aujourd'hui, on pourrait dire que c'est la génération Harry Potter qui est arrivée en âge d'écrire, qui a atteint l'âge d'écrire. Et il y a plusieurs personnes, dont moi, qui apprécient de prendre des thèmes qui existent à l'étranger, qu'on a lus dans nos lectures, et d'essayer de les introduire dans un univers islandais.
Merci beaucoup, et on va vous retrouver dans les jours qui viennent. C'est Gregor Egalindiosdottir, bonjour et merci à vous aussi d'être parmi nous, de représenter avec vos trois collègues les pays nordiques et j'espère qu'il y aura beaucoup d'autres venus aux Imaginales et beaucoup d'autres auteurs que nous vous ferez aussi découvrir. Maintenant qu'on vous connaît, on vous demandera des bonnes adresses, des bons romans et des gens à suivre dans votre pays. Je vais commencer par un reproche, si vous me le permettez. Votre roman est qualifié par Page des libraires, donc une revue qui fait connaître les livres aux libraires, donc un certain impact pour faire découvrir, sombre, palpitant, addictif. Voilà comment votre roman est qualifié. Je suis tout à fait d'accord, puisqu'évidemment, je l'ai lu. Lille, là aussi, une histoire d'isolement, mais traitée différemment. On va y revenir. C'est un roman qui a coûté cher à Éric Bourri, qui l'a traduit. Ça lui a coûté ses vacances.
Non, mais attends.
Éric Bourri y a laissé une partie, l'essentiel de ses vacances qu'il avait prévu de prendre. Il a recommandé le livre à Gaïa, l'éditeur, et puis l'éditeur lui a dit oui, mais je voudrais que tu le traduises très vite, et dans ce cas-là, c'est toi. Et il a sacrifié l'essentiel de ses vacances d'été, donc voilà, il vous déteste évidemment. Un roman comme ça, on ne refuse pas de le traduire. Voilà. Donc, après cette petite boutade, mais authentique, ce petit fait vrai qui donne une idée de ce qu'éprouve un traducteur, un interprète comme Éric Bourri, comme d'autres, quand il découvre un livre qui lui plaît dans la langue qu'il sait traduire et interpréter. Lille, c'est vrai que c'est votre premier roman, d'abord. Donc, c'est une découverte et c'est un premier roman qui est un roman choc, qui est d'abord très bien écrit, comme beaucoup de ces romans des pays nordiques. Qui est un roman fort, puisque le personnage un peu par lequel on va regarder cette histoire est un journaliste. Ce n'est pas par hasard, vous êtes vous-même journaliste. Et c'est un journaliste qui touche à la politique, qui approche peut-être un peu trop les politiques, en particulier la nouvelle responsable irlandaise de ce futur à court terme, de cette dystopie décidément. On y revient. L'Islande est isolée. On ne nous dit pas trop pourquoi. On verra si on le découvre ou pas dans le cours du roman. Complètement, et que face à cet isolement, il va falloir survivre. Et dans la survie, il y a des priorités. Est-ce que vraiment ces étrangers qui étaient jusque-là plutôt les bienvenus sont indispensables en Islande? Est-ce que les gens qui sont mariés à des femmes étrangères vraiment ont besoin de les garder? Et au fur et à mesure, la machine infernale de l'intolérance et de l'exclusion va se mettre en place. Vous voyez bien que l'intolérance et le fanatisme, ce sont des choses qui n'interrogent pas que les Français, mais aussi d'autres pays. Pourquoi vous avez eu cette idée de le traiter ainsi par la question de l'isolement, c'est l'exclusion? Est-ce que justement, en reprenant, en expliquant un peu le thème de votre roman, est-ce que votre interrogation n'est pas l'isolement, c'est l'exclusion?
Mér langar bara til þess að byrja því að þakka fyrir að hafa boðið mér til Imaginales. Ég held að maðurinn hefur alltaf notað ævintýrin til þess að skoða samfélag sitt og raunveruleikann.
Alors je veux d'abord vous remercier beaucoup de m'avoir invité ici aux Imaginales. Je suis très heureuse d'être ici. Je pense que l'être humain a toujours utilisé que l'être humain a toujours utilisé les aventures qu'il vit pour examiner la société et la réalité.
Ég er blaðamaður, ég hef verið blaðamaður í 20 ár og hef reynt að átta mig á samfélaginu út frá lögmálum blaðamennskunar. En eins og málin hafa þróast undanfarin ár, þá þurfti ég að grípa til skáldskaparins til þess að skoða raunveruleikann. Þannig ég flóttamaður í skáldskapnum.
Je suis journaliste, j'ai été journaliste, enfin je suis journaliste depuis 20 ans en fait en Islande. Et puis dernièrement, disons ces dernières années, ma situation individuelle ou émotionnelle ou intellectuelle a évolué de manière à ce que j'ai ressenti le besoin de m'exprimer autrement que simplement par le journalisme et de m'exprimer donc à travers la littérature et d'écrire une histoire.
Og ég skrifaði bókina áður en Donald Trump varð forseti Bandaríkjanna og áður en Bretland greip til Brexit.
Ce livre-là, je l'ai écrit avant que Trump ne soit élu comme président des États-Unis et avant que les Anglais ne votent pour le Brexit.
En þessi bók byrjaði sem skoðun á einangrun landsins og þjóðarinnar en meðan ég var að skrifa það áttaði ég mig á því að ég var að skrifa þjóðarni og þjóðarnis hyggju og afleiðingar hennar.
Donc ce livre, il a pour point de départ effectivement l'isolement de l'île de l'Islande, mais très rapidement en l'écrivant, je me suis rendu compte que je ne parlais pas de l'isolement réellement, mais que je parlais du nationalisme, de l'esprit nationaliste et de la volonté d'isolement des nationalistes.
Og hún er raunverulega það hvar við draugum línuna á milli okkar og þeirra, hvaða afleiðingar sú lína getur haft.
Oui, il s'agit en fait, la question du nationalisme, c'est de savoir où on trace la ligne entre nous et eux, les autres, l'autre.
Un grand journaliste français qui a aussi été un homme politique, mais qui rassemble au-delà de ses propres opinions, Jean Jaurès, disait le nationalisme, c'est la guerre. Il ne disait pas le patriotisme, je dis bien, le nationalisme, c'est la guerre. C'est tout à fait ce qu'on pourrait ressentir à lire votre roman.
Ég hérna skrifaði þessa bók sem sagt, ég nota bara aðferðir blaðamennskunar raunverulega í henni til þess að þegar maður búinn að draga þessa ályktun að landið einangrað að þá það sem eftir fylgir raunverulega bara lógist.
Et j'ai effectivement utilisé les techniques du journalisme pour écrire ce livre. Disons qu'à partir du moment où l'île se retrouve dans un état d'isolement total puisque toutes les communications sont coupées. Il n'y a plus ensuite qu'à travailler logiquement, qu'à procéder par déduction logique de ce qui va se passer.
Og með einangruninni þá hnignar efnahagnum, stjórnmálunum hnignar og þjóðin raunverulega hnignar sem hópi.
Et cet isolement, en fait, il entraîne d'abord un effondrement de l'économie, un effondrement de l'activité, et puis un effondrement, d'une certaine manière, de la nation en tant que groupe. Une dissolution du groupe.
Eh bien, voilà ce qu'on va découvrir, qu'on va explorer. Vous avez vu quatre voies des pays nordiques. On va les retrouver tout au long de ces quatre jours. C'est ce bonheur-là qui nous attend. Et pour conclure, évidemment, on va faire venir, cette fois-ci, non pas nos auteurs invités, mais un invité de marque, Grégoire Rosinski, l'auteur de l'affiche, à qui on va demander aussi un petit mot. D'abord, on va lui dire un immense merci. Stéphane Wieser et moi-même, nous l'avions rencontré il y a à peu près 18 mois à Québec, à l'occasion d'un salon du livre. On avait bien sûr d'abord dit toute notre admiration pour l'immense artiste qu'il est. Et on avait osé, avant on n'aurait pas osé peut-être, il y a encore quelques années, mais on s'est dit, allez, on est à un grand festival. On est un festival d'imaginaire, on va voir les pays nordiques, on y pensait déjà. Je pense que demander à Grégoire Rosinski l'affiche, ce serait une belle idée. On a commencé à lui en dire un mot, il a eu la gentillesse de nous écouter. Et ensuite, avec son éditeur, les éditions du Lombard, on a monté ce partenariat avec les expositions et puis avec l'affiche qui, non seulement est sur tous les murs de la ville, sur l'ensemble de la communication, mais aussi en couverture de l'anthologie Nature, des imaginales, et comme c'est moi-même qui ai fait cette anthologie, un immense merci, parce que j'aurais jamais imaginé, quand j'offrais Torgal à ma petite fille, qui maintenant est une femme de la quarantaine, mais à l'époque c'était ma très jeune fille, et je lui offrais les Torgal qu'elle adorait. Avant c'était Yakari, le petit indien, bon, maintenant, après c'était Torgal, et je n'aurais jamais imaginé qu'un jour je pourrais envoyer à ma fille une anthologie que je ferais pour le festival et la ville d'Épinal avec Torgal en couverture. Je pense qu'elle va être très contente, ça va lui rappeler sa jeunesse et ses bons moments de lecture. Thorgal, un héros humain, un héros du froid, un héros courageux. Gregor Rosinski, en deux mots, comment ça vous est venu, le personnage de Thorgal ? Oui, je disais, rappeler pour ceux qui ne connaissent pas, de pas y en avoir beaucoup dans la salle, le personnage de Thorgal, ce héros du froid, du nord, qui collait évidemment merveilleusement avec le roman Que passe l'hiver du coup de cœur du festival, qu'on retrouve d'ailleurs avec l'histoire de forêt dans l'anthologie du festival, qui collait merveilleusement avec une partie des univers de nos auteurs des pays invités, pays nordiques, et l'affiche, et là on avait une sorte de synergie qu'on n'arrive pas toujours à faire, mais là vraiment ça tombait merveilleusement. Donc Thorgal, c'est venu, ce personnage qui a pris une importance incroyable, il vous est venu comment, l'idée de faire ce personnage?
Vous avez commencé par l'affiche, alors je commence aussi par l'affiche, et que c'est grâce à mon fils qui a tout fait.
Piotr.
Il est graphiste, Piotr, on l'attend, j'espère qu'il est là déjà. Parce que bon, on a fait le même diplôme, le même Beaux-Arts à Varsovie, sauf qu'il a plus d'expérience dans ce domaine. Vous savez, on a partagé un peu nos spécialités, parce que moi je suis lancé dans la bande dessinée parce que à l'époque dans mon pays c'était interdit, alors j'adore tout ce qui est interdit, c'est esprit contradictoire absolument. Interdisez-moi quelque chose, alors je fais tout à fait contraire. Et tandis que je suis sorti de ce milieu d'illustration des livres, donc c'est bien, c'était, la chronologie était bien gardée ici, d'abord les écrivains et illustrateurs après. Parce qu'on me pose la question souvent, est-ce que c'est M. Rosinski, est-ce que c'est le scénario, qui est d'abord le scénario et après le dessin, ou c'est d'abord le dessin après le scénario? Ce genre de questions me hante tout le temps. Bon, c'est imaginal et épinal. Et pour moi, c'est quelque chose que d'abord épinal parce que c'est ma découverte. Épinal, c'est quelque chose que j'ai absolument senti nécessaire d'être ici et de voir, c'est l'ambiance que je ne trouve pas malheureusement. C'est l'ambiance que je pensais de Gallica, par exemple, c'est la Bibliothèque nationale numérisée. Français, que j'ai passé les nuits blanches, je ne sais pas combien d'années déjà, en cherchant sur le PDF tout ce qui est d'Épinal, qui vient d'Épinal. C'est des grandes productions, je pense que c'est le plus. Ça fait un impact peut-être immense sur toute l'Europe.
Absolument.
De l'image, tout ce qui est l'image de cette époque, de 19e, entre deux siècles. Et tout ce qui était, c'est la production d'Épinal. Donc je rêvais par exemple de voir le vestige, je sais pas, musée peut-être, de cette imprimerie, enfin, cette célèbre imprimerie d'Épinal, où j'ai tous les documents en tant que l'enfant, quand je fouillais, mais c'est l'enfant, moi, quand j'étais enfant, il n'y avait rien du tout dans mon pays, parce que je suis un peu. Je suis belge, d'origine polonaise, résident en Suisse et travaillant pour les Français.
C'est l'Europe.
On m'utilise souvent comme le symbole de l'Europe. Oui, c'est pour ça que j'ai entendu attentivement ce que la madame a dit tout à l'heure sur le nationalisme, cet isolement, ce Brexit, Polexit maintenant, qui est grand danger pour nous, pour le Polonais déjà. Je ne sais pas, après c'était l'information qui est le plus facile à communiquer. Les gens sont, les cerveaux ne suivent pas ça. Les gens sont, en général, ce que je dis, souvent maintenant, les sondages de que les gens, la population est de plus en plus bête. C'est vraiment, dans ce statistiquement, on est plus bête que les gens de l'époque. Les gens des 19e, grâce à Épinal, parce que ça développait énormément l'imagination pour les enfants. Et ce qui se passe ça, dans l'esprit de l'enfant, avec l'Épinal, cette imagination qui s'était développée par les petits théâtres en papier, par exemple. C'est magnifique. Moi, je sens connaître même Épinal. Mais j'ai senti déjà en tant que l'enfant que c'est le petit théâtre à un papier. Puis j'ai découvert ça beaucoup plus assez récemment. Que c'était édité justement et produit à Épinal. Et donc tout ça, ces maquettes, les vieux avions, les zeppelines, les trucs. Vraiment, ce climat-là, c'est Alsace, Lorraine. C'était mon rêve toujours. Quand chaque fois que je passais vers Bruxelles, par Colmar, Strasbourg, je suis un peu comme dans un rêve.
Mais c'est un rêve partagé, parce que pour nous, vous avoir ici, et le fait que vous ayez accepté de nous faire l'image, c'était vraiment un vrai bonheur. On n'y croyait pas trop. On s'est dit avec Stéphane Wieser, on va oser lui demander, mais oui. Et donc, en plus, on nous dit que ça lui a fait plaisir. Alors là, vraiment, c'est à nous aussi. Je voulais aussi dire que le personnage de Thorgal, donc, qui est tout cet imaginaire, vous le trouvez dans le parc, vous le trouvez au musée. C'est-à-dire qu'il y a 40 ans, il y a encore des gens, même il y a 20 ans, qui discutaient. Est-ce que la BD est un art? Enfin, ces sottises, ces intolérances qui, évidemment, n'ont pas cours ici. L'ouverture et la diversité sont la bienvenue, comme on le dit dans un de nos cafés littéraires. Et c'est vrai sur tous les arts. Il n'y a pas de hiérarchie des arts, il y a juste des talents. Je crois que c'est une chose qu'il faut encore réaffirmer pour ceux qui n'ont pas encore tout à fait compris, qui sont de moins en moins nombreux. Et au musée, c'est-à-dire que vous avez des œuvres et des œuvres qu'on a dans les livres. Moi, j'ai trouvé des tableaux au musée. J'en profite pour le dire, pour ceux qui ne sont pas d'Épinal, les autres le savent tous, mais ce musée est magnifique. Il y a des toiles incroyables, y compris même moi, qui n'ai pas une immense culture de peinture. Les tableaux, tout de suite, je les ai vus. Ah, c'est ce que j'ai vu dans mon livre de français, de culture, il y a longtemps. Et je les revois là. Il y a des très grands artistes du 17e, 18e, et il y a les grands artistes du 20e et du 21e, comme Rosinski. Et à Épinal, justement, c'est toutes les institutions culturelles qui s'ouvrent d'année en année à l'ensemble de ces genres de l'imaginaire. Alors, pour conclure ce mini-entretien, parce qu'évidemment, on va se revoir et il y aura cette grande soirée où vous aurez Grégoire Rosinski et Piotr Rosinski pour vous seul. Est-ce que Thorgal est un personnage universel, Grégoire Rosinski?
C'est la preuve que c'est tellement répandu dans le monde, c'est de vingtaines de langues. Quand même, et puis c'est parce qu'il est universel. C'est un personnage hors des temps, hors de toutes les hors des politiques, hors des religions. La religion est toujours présente quelque part. Mais je dis tout de suite que je suis contre. Mais c'est grâce à ça, c'est magnifique la résistance de la matière. C'est un adversaire. Pour faire quelque chose d'intéressant, il faut avoir un adversaire. S'il n'y a pas, il faut les inventer. Pour moi, par exemple, mon adversaire, c'était la censure en Pologne. J'adore la censure, parce que en tant que créateur, parce que grâce à ça, on peut créer contre quelqu'un, contre quelque chose, et ça, c'est la plus grande motivation pour faire le truc. Mais ce n'est pas pour faire plaisir à quelqu'un, parce qu'évidemment que ce plaisir vient automatiquement, parce qu'on partage des plus grands cercles des adorateurs de cette idée. Donc on a des partisans de notre côté, dans notre union, pour créer idéologie, sa propre idéologie. Par exemple, quand je fais, parce que le Thorgal, ce n'est pas seul imaginaire que je fais. Le Thorgal, c'est justement, ça a commencé parce que je ne peux pas, il y a seul moyen de faire quelque chose d'intéressant, c'est de faire la BD avec scénariste qui habite à Belgique, à Bruxelles. Et moi, c'était pays communiste pur et dur, encore avec le mur de Berlin. Et j'étais seul, premier auteur libre qui envoyait, qui ignorait complètement, c'est comme ça n'existe pas, toutes ces frontières, les douanes, les censures et tout ça. J'avais ce courage de faire, et ça marchait. Bizarrement, pour nous tous, ça marchait. Grâce à ça qu'on a évité les politiques, sexe, inutile, violence, tous ces machins qui les auteurs adorent épater le public, justement ce genre de trucs, et les gens, les lecteurs, ils ont ras-le-bol déjà de ça, ils ont assez vraiment, ils ont désir de vrais sentiments, de l'amour, de la vraie jalousie, la haine, on se trompe, le couple amoureux qui se trompe, hein, de la façon, de manière humaine, mais pas la façon de tabloïd, de trucs. C'est pour ça qu'on a essayé de mettre la heroic fantasy, pas fantasy classique, justement, parce qu'il n'y a pas cet élément. Et par exemple, un film, par exemple, quand on regarde un bon film, intéressant, et brusquement, il y a le scène, pas même scène d'amour, mais scène, comme un parti extrait des films porno, Bach, parce que la public aime ça, j'adore quand la public aime ça. C'est moi qui je suis. Et moi, je dirige ça, c'est que la public. La public aime, commence à aimer sans même savoir. Qu'est-ce que ça leur attire? Il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de trucs obscènes. Et c'est ça que tout le monde attend. Et ça, c'est universaliste, justement, d'après moi.
Un immense merci, Grégor Rosinski. On va bientôt se séparer. Je laisse la parole.
Oui, quelques mots, pardon, d'intervenir à nouveau. En tous les cas, les quelques échanges auxquels on a pu assister. À l'instant, avec nos invités, nous donnerons tous envie de participer aux conférences, débats, speed dating, etc. Il y en a près d'une centaine au total, donc il y aura de quoi faire durant ces 3-4 jours. Je ne peux pas terminer, évidemment, sans adresser quelques remerciements. Tout d'abord, remerciements à ceux qui rendent par leur financement ces imaginales possibles. Alors bien sûr les mécènes qui sont de plus en plus nombreux, qui représentent presque bientôt un quart, pas loin d'un quart des financements. Remerciements aussi bien sûr aux institutions qui nous soutiennent, l'État et puis le Centre National du Livre, même s'il a des exigences de temps en temps, mais enfin, il nous amène des moyens, donc on compose. Voilà, l'État, je pense, n'est pas présent, la DRAC n'est pas représentée, puisque, je le dis, je ne sais pas, ça doit être pareil dans tous les pays, mais vous savez qu'en période électorale, l'État n'a pas le droit d'être présent, parce que ça bouleverserait le résultat de dimanche, on le sait tous, et donc c'est une très sage précaution. Je voudrais remercier aussi, bien sûr, la région Grand Est, pour un soutien qui est tout à fait conséquent, le département des Vosges, et vous souhaitez de merveilleuses imaginales 2019. On vous invite maintenant à suivre Grégor Rosinski, qu'on remercie encore de sa présence. Nous allons à l'espace. Ah bon, on a un problème sur la fresque, ce que je vous ai dit, vous l'oubliez.
Alors voilà, on a un petit problème, la fresque n'a pas été livrée et en fait il y a une fresque qui va être réalisée par 4 étudiants, 3 étudiants de l'école supérieure d'art d'Épinal et un étudiant de l'école nationale d'architecture qui ont concouru pour pouvoir participer à ce projet, qui veulent faire une fresque en l'honneur de Grégor Rosinski. Donc elle sera démarrée là vers midi.
Voilà, c'est du live. Bien, merci, écoutez, très beau festival à vous toutes et à vous tous.